Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Détends-toi. Concentre-toi. Écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort. Crie. Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou, si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, pelotonné, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf. Ou, dans un hamac, si tu en as un. Sur ton lit, naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas en position de yoga. En tenant le livre à l'envers, évidemment. Il n'est pas facile de trouver la position idéale pour lire, c'est vrai. Autrefois, on lisait debout devant un lutrin. Se tenir debout, c'était l'habitude. C'est ainsi que l'on se reposait quand on était fatigué d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval. Et pourtant, lire bien droit sur ses étriers, le livre posé sur la crinière du cheval ou fixé à ses oreilles par un harnachement spécial, l'idée te paraît plaisante. On devait être très bien pour lire, les pieds dans les étriers. Avoir les pieds levés est la première condition pour jouir d'une lecture. Bien, qu'est-ce que tu attends ? Allonge les jambes, pose les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du canapé, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, le piano, la map-monde. Mais d'abord, ôte tes chaussures si tu veux rester les pieds levés. Sinon, remets-les. Mais ne reste pas là, tes chaussures dans une main et le livre dans l'autre.
Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono. Sto leggendo, non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso. Dillo più forte, grida. Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. Oh, se non vuoi dirlo, speriamo che ti lascino in pace. Prendi la posizione più comoda. Seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul puff, sull'amaca, se hai un'amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga, col libro capovolto, si capisce. Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta si leggeva in piedi, di fronte a un leggio. Si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si riposava così, quando si era stanchi di andare a cavallo. A cavallo nessuno ha mai pensato di leggere. Eppure, ora l'idea di leggere stando ad arcioni, con il libro posato sulla schiena del cavallo, magari appeso alle orecchie del cavallo con un finimento speciale, sembra attraente. Con i piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto comodi per leggere. Tenere i piedi sollevati è la prima condizione per godere della lettura. Bene, che cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli orecchini della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul mappamondo. Togliti le scarpe prima. Se vuoi tenere i piedi sollevati, se no, rimettitele. E adesso non restare lì con le scarpe in una mano e il libro nell'altra.
Bienvenue, chers auditeurs, au premier épisode de Les yeux ont des oreilles. En guise de mise en jambe, vous venez d'entendre l'incipit de Si par une nuit d'hiver, un voyageur, d'Italo Calvino, un roman qui en contient beaucoup. D'incipit, pas de voyageur, traduit par Daniel Salonave et François Val, lu par Willem. Willem est en M2 de littérature comparée, il travaille sur Oscar Wilde et André Gide, il écrit sur du papier et sur un blog, et son rêve ultime serait de construire une maison tout en livres, rien que ça. Bonjour Will.
Bonjour.
Quant à la version originale qui est venue juste après, c'est Una notte d'inverno un viaggiatore. Elle vous a été lue par Viviana, qui hausse les sourcils devant mon accent italien. Elle est également en M2, étudie la littérature italienne, française et anglaise, et travaille notamment sur Honoré de Balzac et Henry James. Son premier amour est Théron Grandfield, héros du roman L'attrape-cœur de Gigi Saint-Jean. Bonjour Viviana.
Bonjour Colin.
La troisième roue du carrosse, c'est Camille. Elle est en M1 de littérature comparée, elle travaille sur un corpus latino-américain, et par le plus grand des hasards, elle porte une boucle d'oreille en forme de... Bonjour Camille.
Bonjour.
Quant à moi, je m'appelle Caroline, et je serai le pilote de ce pilote. J'étais javaniste dans ma jeunesse, maintenant je suis angliciste. Je travaille sur Philip Pullman, et je me suis confectionné un crâne en papier mâché qui s'appelle Figaro, qui contient des M&S. Bonjour Figaro. Il vous dit bonjour. Comme vous aurez deviné, Les yeux ont des oreilles est une émission de lecture. Où autour d'un thème donné,
nous partageons entre nous et avec vous les vivres que nous aimons, sans discrimination en matière de genre, de langue, de style et de femme. Non, là c'est que des romans, mais c'est un hasard complet. Le but, c'est simplement de faire entendre la voix des livres, d'écouter avec les yeux et de voir avec les oreilles, d'où le titre, et avec un peu de chance, de vous donner envie de lire au-delà des extraits proposés. Et puis, histoire de crâner un peu dans le méta littéraire, chaque émission commencera avec un inkit et se terminera avec un exkit. Pour la toute première émission, le thème reste dans le domaine du familier, on voulait pas trop vous faire peur, le plaisir de lire, surtout à vous, et de s'entendre lire, qui fait de nous tous des gosses de 4 ans. Du coup, on a compensé question d'épaysement de la langue en commençant avec un inkit italien. Et pour couper la poire en deux, voici Une langue venue d'ailleurs, d'Akira Mitsubayashi, proposée par Will.
Mitsubayashi est un écrivain et traducteur japonais qui est venu en France dans les années 1970 et 80 pour apprendre le français. Et donc dans le passage que je vais lire, il raconte comment il était fasciné par cette langue jusque dans les livres théoriques. Je pesais le poids des mots et des phrases. Je m'émerveillais de l'enchaînement rigoureux des unités textuelles de différentes dimensions. C'était une jouissance bien évidemment intellectuelle, mais en même temps profondément physique et sensuelle, puisque j'avais l'impression de toucher les parties les plus sensibles des pages ouvertes et que tout mon corps était engagé. La bouche comme appareil phonatoire, les mains et les bras qui suivaient dans leur gesticulation le mouvement logique et argumentatif du texte, les pieds et les jambes qui se tenaient dans leurs déplacements tremblants, le rythme des énoncés proférés et déclarés. Je fus fasciné, par exemple, par la beauté de la prose de Jean-Pierre Richard, dès le moment inaugural de la lecture de Littérature et Sensations. Comment le mot « beauté » monte-t-il aux lèvres de celui qui lit un essai critique, dont la teneur est fort intellectuelle et abstraite ? Cela doit venir de l'expérience grisante du sentiment d'adéquation entre les angoisses personnelles du lecteur et leur expression verbale proposée dans le texte. La littérature était considérée comme une expression des choix, des obsessions et des problèmes qui se situent au cœur de l'existence personnelle, comme un exercice d'appréhension et de genèse au cours duquel un écrivain tente à la fois de se saisir et de se construire. J'avais envie de souligner tous les mots. Aucune définition de la littérature ne m'avait autant frappé que les denses lignes de la préface qui me semblaient alors mettre en pleine lumière une vérité ignorée. Ce qui se joue dans la littérature, c'est bien la totalité d'une existence singulière, et il y va donc de la vie et de la mort de celui ou celle qui s'engage à corps perdu dans l'écriture, et, peut-être, dans la lecture aussi, l'écriture et la lecture s'impliquant, s'invitant mutuellement.
Merci pour cette découverte, Will. Et tout de suite, un virage à 180 degrés, puisque voici une citation d'un classique si franco-français que rien qu'en disant le titre, je devrais entendre au moins un cocorico. Prêt ? C'est Madame Bovary, de Gustave Flaubert, lu par Viviana.
Ce n'était qu'amour, amant, amante, d'un persécuté s'évanouissant dans des pavillons solitaires. Postillon pointu à tous les relais, chuteux concravé à toutes les pages, forêt sombre, trouble de cœur, sermons, sanglots, larmes, et baiser, nacelle de clair des lunes, rossignant dans les bosquets. Monsieur est brave comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleure comme des ours. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se casse dans les mains à s'épuiser des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris des choses historiques, l'air bahut, salle des gares et Munstall.
Merci Viviana. À présent, on change à nouveau de genre et de langue, puisque votre humble serviteur vous a apporté un livre de fantasy allemande. Germanophobe, bouchez-vous les oreilles. L'héroïne de Tintenherz, de Cornelia Funke, s'appelle Maggie et vit seule avec son père Mo, restaurateur de livres anciens. Parce qu'ils doivent se mettre en fuite devant le terrible Capricorne et sa bande d'alcoolites, qui appelle Mo langue magique, Maggie apprend que son père possède le pouvoir, lorsqu'il dit à voix haute, de faire sortir des êtres et des objets des livres. Il y a 9 ans, il a malencontreusement tiré Capricorne et sa bande du roman Cœur d'encre, et en échange, la mère de Maggie, Reza, a disparu entre les pages. Et aussi Doucha, mais on s'en fout. Capturé par Capricorne, Mo se retrouve contraint de lire un extrait de L'île au trésor de R.L. Stevenson pour faire apparaître les richesses qui y sont décrites. Nous sommes au chapitre 18.
So kam es, dass Maggie ihren Vater zum ersten Mal nach 9 Jahren in einer Kirche lesen hörte. Und noch viele Jahre später zog ihr, sobald sie eins der Bücher aufschlug, aus denen er an jedem Morgen vorlas, der Geruch von verbranntem Papier in die Nase. »Ich glaube, ich habe die richtige Stelle gefunden«, sagte Mo in die Stille hinein. Er warf Capricorn einen letzten Blick zu, räusperte sich und begann. Alles verschwand. Die roten Wände der Kirche, die Gesichter von Capricorns Männer und Capricorn selbst auf seinem Stuhl. Es gab nur noch Mo's Stimme und die Bilder, die sich aus den Buchstaben formten wie ein Teppich auf dem Webstuhl. Hätte Maggie Capricorn noch mehr hassen können, dann hätte sie es jetzt getan. Schließlich war nur er schuld, dass Mo ihr all die Jahre nicht ein einziges Mal vorgelesen hatte. Das hätte er ihr alles ins Zimmer zaubern können, mit seiner Stimme, die jedem Wort einen anderen Geschmack gab und jedem Satz eine Melodie. Alle schwiegen. Kein Laut war zu hören, außer Mo's Stimme, die Buchstaben und Wörter zum Leben erweckte. Nur einer schien immun gegen den Zauber. Mit ausdruckslosem Gesicht, die blassen Augen auf Mo gerichtet, saß Capricorn da und wartete. Auf das Klirren von Münzen, in all dem Wohlklang der Worte, auf Kisten aus feuchtem Holz, schwer von Gold und Silber. Mo ließ ihn nicht lange warten. Während er las, was Jim Hawkins in einer dunklen Höhle sah, passierte es. Goldstücke, die die Köpfe von George oder einer der Louis trugen. Dublonen, doppelte Guineen, Moidore und Zechinen, die Köpfe sämtlicher Könige von Europa im Verlauf der letzten 100 Jahre. Seltsame orientalische Goldstücke, deren Schrift wie ein Gewirr von Fäden oder wie ein Stück von einem Spinnennetz aussah. Runde Stücke, viereckige Stücke, Stücke, die in der Mitte durchbohrt waren, als hätte man sie um den Hals getragen. So ziemlich jede Art von gemünztem Gold musste in dieser Sammlung ihren Platz gefunden haben. Die Mägde waren noch dabei, die letzten Krümel von den Tischen zu wischen, als über das blanke Holz plötzlich Münzen rollten. Die Frauen stolperten zurück, ließen die Tücher fallen, pressten die Hände vor den Mund, während die Münzen ihm zwischen die Füße sprangen. Goldene, silberne, kupferfarbene Stücke. Sie klimperten auf den Stallboden, häuften sich klirrend unter den Bänken, mehr und immer mehr. Keiner von ihnen traute sich, das verhexte Geld anzufassen. Denn was sonst war es? Gold, gemacht aus Papier und Rückerschwärze und dem Klang einer menschlichen Stimme. Nous voici donc à la pièce maîtresse de l'émission, qui va nous permettre de parler un peu entre nous de l'importance de lire à voix haute. Comme support, Camille nous offre Comme un roman de Daniel Pennac.
Le quatrième de couverture du livre que je tiens entre mes mains présente les droits imprescriptibles du lecteur. Droit numéro 1, le droit de ne pas lire. Numéro 2, le droit de sauter des pages. Numéro 3, le droit de ne pas finir un livre. Numéro 4, le droit de relire. Numéro 5, le droit de lire n'importe quoi. Numéro 6, le droit au bovarisme. Une maladie textuellement transmissible. Numéro 7, le droit de lire n'importe où. Numéro 8, le droit de grappiller. Numéro 9, le droit de lire à haute voix. Étrange disparition que celle de la lecture à voix haute. Qu'est-ce que Dostoïevski aurait pensé de ça? Et Flaubert? Plus le droit de se mettre les mots en bouche avant de se les fourrer dans la tête. Plus d'oreilles, plus de musique, plus de salive, plus de goût, les mots. Et puis quoi encore? Est-ce que Flaubert ne se l'est pas gueulé jusqu'à s'en faire péter les tympans, sa Bovary? Est-ce qu'il n'est pas définitivement mieux placé que quiconque pour savoir que l'intelligence du texte passe par le son des mots, d'où fuse tout leur sens? Est-ce qu'il ne sait pas, comme personne, lui qui a tant bagarré contre la musique intempestive des syllabes, la tyrannie des cadences, que le sens, ça se prononce? Quoi? Des textes muets pour de purs esprits? À moi, Rabelais! À moi, Flaubert! Dosto, Kafka, Dickens, à moi? Gigantesque brailleur de sens, ici, tout de suite. Venez souffler dans nos livres. Nos mots ont besoin de corps. Nos livres ont besoin de vie. Il est vrai que c'est confortable, le silence du texte. On n'y risque pas la mort de Dickens, que ses médecins suppliaient de taire enfin ses romans. Le texte est soi. Tous ces mots muselés dans la douillette cuisine de notre intelligence. Comment se sent quelqu'un en ce silencieux tricotage de nos commentaires? Et puis, à juger le livre à part soi, on ne court pas le risque d'être jugé par lui. C'est que dès que la voix s'en mêle, le livre en dit long sur son lecteur. Le livre dit tout. L'homme qui lit de vive voix s'expose absolument. S'il ne sait pas ce qu'il lit, il est ignorant dans ses mots, c'est une misère, et cela s'entend. S'il refuse d'habiter sa lecture, les mots restent lettres mortes, et cela se sent. S'il gorge le texte de sa présence, l'auteur se rétracte. C'est un numéro de cirque, et cela se voit. L'homme qui lit de vive voix s'expose absolument. aux yeux qui l'écoutent. S'il lit vraiment, s'il y met son savoir, en maîtrisant son plaisir, si sa lecture est acte de sympathie pour l'auditoire, comme pour le texte et son auteur, s'il parvient à faire entendre la nécessité d'écrire en réveillant nos plus obscurs besoins de comprendre, alors les livres s'ouvrent grands, et la foule de ceux qui se croyaient exclus de la lecture s'y engouffre derrière lui. Chapitre 10. Droit numéro 10. Le droit de nous taire. Alors, contrairement au titre, comme un roman n'est pas un roman. C'est par contre un livre sur le plaisir de la lecture absolument, puisque Daniel Pennac, dans ce livre légèrement polémique, on va dire, tente d'expliquer comment le plaisir de lire n'est pas vraiment transmis par l'école, et il tente de réconcilier les lecteurs que nous sommes, les adolescents en particulier, avec le bonheur de lire un roman, par ce passage à la lecture à voix haute, par cette incorporation du texte en nous-mêmes. Vu que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans cette émission, le livre était assez pertinent dans le contexte, et on va essayer d'en parler un petit peu tous ensemble. Donc William, dans ton roman Une longue venue d'ailleurs, enfin ton roman celui que tu as choisi, pas celui que tu as écrit, tu t'intéresses à ce que c'est qu'une langue étrangère et comment on se l'approprie, et je trouvais que ton passage était assez pertinent dans ce thème de l'incorporation, de la corporalité du texte, puisque c'est quasiment une expérience sensuelle que tu décris.
Oui, bah justement, c'est assez ce que Minzubayashi essaie de dire, que pour lui, le français, c'est certes une langue de l'écrit qu'il a découvert comme ça, mais c'est une langue qu'il vit physiquement, en fait. Et c'est vrai que cette dimension de plaisir du corps est vraiment très présente dans son livre, dont j'ai essayé de donner une petite idée en lisant un bout. Et ouais, non, c'est intéressant comme thème de voir que la langue, c'est aussi quelque chose qui se vit physiquement, quoi, et pas uniquement mentalement, comme des esprits morts.
Moi, c'est vrai que c'est assez marrant de voir cette espèce de manière qu'il a de mettre en bouche les mots, et je pense que le plaisir dans la découverte d'une langue étrangère, c'est un peu ce plaisir qu'a dû ressentir Minzubayashi, d'entendre une... Mais comme quand Viviana nous lit un texte en italien, ou Caroline un texte en allemand, ça, on a une espèce de musique qui résiste à notre compréhension, et qui, du coup, procure du plaisir, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Viviana, toi qui es plongée dans une langue étrangère toute la journée.
Je pense que lire en langue originale, c'est une expérience très importante parce que la musicalité ne peut pas être traduite.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était intéressant d'avoir vos deux versions de Italo Calvino.
Et nous cherchons dans cette émission de transmettre ces sens des dualités parce qu'il y a toujours des textes originaux que l'auteur a pensé et aussi la traduction à laquelle le lecteur s'approche.
C'est aussi toute la difficulté de la traduction, justement, d'essayer de rendre la musique du texte avec le sens aussi, ce qui est. Surtout en poésie, ce qui est vraiment très, très compliqué.
C'est sûr. Et moi, je suis avantagée parce que vous n'avez absolument rien compris à ce que j'ai dit. Hein,
si, donc... quelques mots quand même.
Non. J'ai pu raconter n'importe quoi.
Hein. Oui, non, mais à un moment, il parle d'or et d'argent.
Ah, bien joué. En plus, c'était le thème de l'extrait, puisqu'il lit et il y a des pièces qui viennent de sortir du livre. Donc, t'as le bon passage où il décrit toutes les pièces, tout ça. Donc, c'est très sonore, enfin, pour moi en tout cas. Mm. J'ai une question pour Will, pour Minzubayashi. Il semble qu'il y a un passage où tu dis où il est fasciné par la préface. L'apparence de la préface.
Oui,
c'est un point de vue un peu original, je trouve.
Oui, en fait, c'est ce qu'il décrit un peu plus longuement dans le chapitre dont je viens d'un extrait. C'est une espèce de fascination pour les textes théoriques qu'il a du mal à comprendre, puisque c'est vrai que quand il est arrivé en France en 70, bah, ce que les gens aimaient lire, c'était surtout des romans et la critique, c'était vraiment plus un appareil pour penser. Et que justement, lui, il est fasciné par cette langue qu'il trouve absolument. Original et très étrange, et justement, il cherche un petit peu à voir pourquoi est-ce que lui, la critique, ça le touche, et il en vient justement à formuler le fait que la critique, c'est aussi un art de la lecture, et il y a un moment où il parle d'un professeur qu'il a eu, et où il dit qu'en fait, ce qu'il a vraiment trouvé beau, c'est le moment où le professeur faisait un commentaire, et où il lisait en quelque sorte son commentaire, et où là, c'était une autre façon de lire un texte. Donc, de ne pas lire forcément dans le texte, mais de lire, un peu au sens intellectuel, de donner une lecture du texte, en fait. C'est ce qu'il trouve très intéressant, justement. C'est ça qui le séduit dans la critique. Donc je trouvais aussi que c'était intéressant par rapport à l'amour de la lecture, c'est aussi l'amour de donner une lecture d'un texte.
C'est amusant parce que c'est tout à fait le contraire de ce que dit Pennac et c'est ce qu'il critique. C'est qu'il trouve qu'on passe tout de suite par la critique dans les études littéraires et qu'on va bloquer certains élèves qui vont être hermétiques à la lecture parce qu'on a voulu leur expliquer avant de leur faire aimer. Et son grand principe pédagogique, on va dire, dans Comme un roman, c'est d'expliquer comment il va faire la lecture à des élèves de ZEP, justement. Et progressivement, en leur lisant des textes, juste en leur racontant un roman, donc Le Parfum, par exemple, il va leur faire aimer la lecture. Et une fois qu'ils auront passé ce cap, mais l'appareil critique va venir tout seul, mais qui naît d'un plaisir de la lecture, je veux dire, contée, et peut-être une lecture un peu enfantine, finalement.
Oui, mais Minzubayashi, on va dire un peu favorisé, puisque c'est vrai qu'il est arrivé en France à l'ENS, justement. Donc C'est vrai qu'il a...
Ah.
Voilà.
Ah, c'est pour ça que tu l'as choisi. Corporatisme.
Non, mais c'est, oui, c'est surtout, bah, lui, voilà, c'est vrai qu'il est passé, mais dans son enfance au Japon, par d'autres livres. Il y a un moment où il fait une liste très longue avec Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, etc. Tous ces livres qui l'ont déjà porté au français avant de se plonger dans la critique. Mais justement, le parfum, c'est très intéressant puisque, justement, notamment le début qui est très sonore en allemand, avec cette description de l'odeur absolument putride qui est vraiment très forte. Et même en allemand, sans comprendre, je trouve qu'on sent vraiment le...
Bah, on sent,
oui. Ouais, voilà, on sent.
D'ailleurs, Pénac décrit la réaction des élèves à qui il lit le l'incipit du parfum. Et leur première réaction, c'est « Ah, mais ça pue !» Et ils sont très choqués qu'on puisse raconter des histoires aussi sales dans un roman à l'école, en plus. Et une des premières réflexions qu'il y a, c'est comment il ose écrire cet auteur avec des répétitions, écrire « ça pue » pendant des pages. Enfin, nous, on ferait ça, on serait punis, on n'aurait pas une bonne note. Donc, une espèce de surprise à la rencontre avec cette écriture.
C'est la licence poétique, ils peuvent tout faire.
Et d'où, justement, le plaisir de lire.
Exactement.
C'est un peu litanie.
Non, mais c'est vrai. Mais je trouve qu'on a, c'est un peu le principe de cette émission, c'est de montrer comment finalement la lecture, c'est pas juste être tout seul avec un texte et nos yeux, c'est aussi un corps qui est présent. Ben, dans Italo Calvino, c'est un corps qui est assis, qui est installé. C'est un plaisir un peu sensuel, donc Shimizu Bayashi.
Tout à fait.
Et c'est un plaisir de l'oralité chez Pennac. Et du coup, Caroline, toi, dans ton roman, c'est encore plus frappant, puisqu'on a un héros qui a ce pouvoir magique de rendre vivants des personnages en lisant à voix haute. Donc finalement, de créer des corps par ta voix.
Ouais, des corps, des corps humains, plus souvent des objets quand même. En général, quand il fait sortir des humains, il le fait pas vraiment exprès. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans l'extrait que j'ai lu, il y a à la fois mon côté vraiment fantasy, fantastique, genre, oh, il y a des pièces partout, waouh, ça brille. Et d'un autre côté, tout l'auditoire est absolument fasciné par la voix du personnage, par sa capacité vraiment à jouer avec les sons, à rendre le monde réel.
Donc c'est le pouvoir qu'on essaye d'acquérir, cher auditeur, de faire surgir des objets et autres personnalités à tes oreilles. Donc on espère avoir réussi.
Tout à fait, oui. Il y a au moins un lutrin, un coq, un livre, des pièces sur la table. Là, vous pouvez pas les voir, mais en fait, on a des pouvoirs magiques.
C'est bien la radio pour ça. Bon, on espère que nos voix ont rendu justice à ces livres et on va continuer l'émission.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes. Et soudain, pourtant tout allait bien. J'aime lire.
Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Tirés de sources aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites.
Bon, comme c'est la première fois, je vous ai fait ça en trois parties. Grand 1, le plaisir de lire n'importe où. Vu dans le café 203, il y a plusieurs semaines, un soir,
avec de la bière,
sur le tableau noir, Noël au fourneau, Paco Labo, et aussi, je suis pas l'inceste que tu croyais, petit Gribouilly, je t'aime ma fille, petit cœur, maman, 22h35, il ne reste que les bonhommes, bonhomme en lettres majuscules et souligné deux fois, 07, deux points d'exclamation, Julien-Bim-Clément-Seb-Calou, smiley qui fait un geste positif, M majuscule. Ouvrez les guillemets. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Fermez les guillemets. Smiley qui sourit. Ouvrez les guillemets. J'aime une polonaise qui en bavait tous les matins au petit-déj. Point d'exclamation. Fermez les guillemets.
Les ravages de la bière.
Voilà, c'est ça. Grand 2, le plaisir de lire dans les cartes. Bon, je vais pas vous lire votre avenir parce que je sais pas faire. Mais choisissez une carte. C'est des cartes de tarot, chers auditeurs.
Alors, Willem prend une carte.
C'est le mât. Donc, le mât, c'est le numéro 22 ou 0. C'est juste un mec qui marche. Voilà. D'après mon tarot divinatoire pour les nuls, le mât ou le fou dans la chanson. Ce qu'il vous faut, c'est être fou. Fou de la vie, fou de ses chemins. Ce qu'il vous faut, c'est ne penser à rien afin de pouvoir jour et nuit rester fou. Extrait de Ce qu'il vous faut, Jacques Brel. Et grand 3, le plaisir de lire en toutes circonstances et même quand on a mal à la tête. Alors... C'est la notice d'un médicament
dont on ne fera pas la publicité.
Et si vous trouvez le médicament, vous gagnez un paquet de bonbons.
Et un jeu de tarot.
Petit 4. Quels sont les effets indésirables éventuels? Comme tous les médicaments, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée, ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou, ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin
et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol. Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées. Taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang, comme les plaquettes, pouvant se traduire par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.
Et nous voilà déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons que cela vous a plu, et surtout, que vous allez vous empresser de fourrer le nez dans un livre. Connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe. Tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille Tichiti. Cette émission a été préparée tous ensemble. Merci à Robin à la technique avec son super t-shirt. Rendez-vous en novembre pour le deuxième opus. D'ici là, vous aurez largement de quoi écouter sur le site de Transistor. Je vous laisse avec la dernière page du vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda, traduit par François Maspero, et lu par Camille.
Antonio José Bolívar Proaño se releva lentement. Il s'approcha de l'animal mort et fut ému de voir que le coup l'avait déchiqueté. Sa poitrine n'était qu'une immense plaie, et des débris de tripes et de poumons lui sortaient du dos. Elle était plus grande encore qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, une beauté, un chef-d'œuvre de grâce impossible à reproduire, même en imagination. Le vieux la caressa, oubliant la douleur de son pied blessé, et il pleura de honte, se sentant indigne, avili et en aucun cas vainqueur dans cette bataille. Les yeux brouillés de larmes et de pluie, il poussa le corps de l'animal jusqu'au bord de la rivière, et les eaux l'emportèrent dans les profondeurs de la forêt, vers les territoires jamais profanés par l'homme blanc, vers le confluent de l'Amazone, vers les rapides, où des poignards de pierre se chargeraient de le lacérer, à tout jamais hors d'atteinte des misérables nuisibles. Puis, il jeta rageusement le fusil, et le regarda s'enfoncer sans gloire, bête de métal, au nid de toutes les créatures. Antonio José Bolívar ôta son dentier, le rangea dans son mouchoir, et sans cesser de maudire le gringo, responsable de la tragédie, le maire, les chercheurs d'or, tous ceux qui souillaient la virginité de son Amazonie. Il coupa une grosse branche d'un coup de machette, s'y appuya, et prit la direction d'Ali Dilio, de sa cabane et de ses romans qui parlaient d'amour, avec des mots si beaux que, parfois, il lui faisait oublier la barbarie des hommes.